T'as bien capté, buvoir sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
T'as bien capté, bulle noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de Paula, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h.
Baby,
faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire sur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté. Radio Libertaire sur 89.4.
Bulle Noire présente Vinaigrette et le réveillon des chiens. Un feuilleton d'anticipation en radiomédie musicale. Résumé du premier épisode. Vinaigrette a été sommée par sa patronne, Madame Égard, de faire un choix cornélien pour conserver son emploi. Elle doit assassiner un dingo. Quel dingo? Elle l'ignore, mais là n'est pas la question. Elle n'est pas une tueuse, point barre. Heureusement pour elle, le clown Papouf a miraculeusement ressuscité et l'a débarrassé momentanément de Madame Égard. Mais avant de retrouver Vinaigrette et le clown mort-vivant, allons voir du côté de la maison de production Badman, et plus particulièrement dans le bureau de Degrafou, le patron qui reçoit un réalisateur plutôt jeune.
C'est sans doute ce que j'ai écrit de mieux. C'est insensé tout de même. Ouf.
Ah, écoute, tu prêches un convertible, mon cher Ballister. C'est un excellent scénario, mais qu'est-ce que tu veux? Il est con, celui-là. C'est le marché du film qui a changé. Mais tu sais ce qu'ils m'ont dit à la commission, ça, ça va te faire plaisir. Ils ont dit, si l'auteur, c'était pas ce gros rambard de Ballister, on le financerait tout de suite, ce film. Tu vois, c'est positif, ça.
Ah, ça prouve que c'est un bon scénario.
Ah, oui.
Mais attends, ils ont dit je suis un rengard ?
Un gros rengard.
Mais ils oublient qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais encore classé dans le top 50 des réalisateurs.
Bah oui, mais c'est fini le top 50, mon vieux. Maintenant, le classement, c'est RC ou A. R comme robot, C comme cyborg ou A comme androïde. Le cinéma travaille plus qu'avec des jeunes androïdes, des jeunes robots ou des jeunes cyborgs. T'as remarqué, j'ai bien dit jeune. Plus personne ne veut se faire chier avec des vieux culs plissés et conçus.
J'ai pas le cul qui plisse. Ouf.
Arrête de te regarder le foiron, il est con celui-là. Et ne montre surtout pas, non. On a vu assez d'horreurs pendant la guerre. Bon, écoute, trêve de plaisanteries rigolotes, il faut te rendre à l'évidence, hein, Ballister. Ta carrière s'arrête comme les trains durant les grèves des cheminots, là. Il n'y a plus personne qui monte dedans.
Mais j'ai 43 films à mon actif, Grafouin. 43. Alors d'accord, imaginons, il n'y a plus de place pour moi dans le cinéma, mais à la télé, ils peuvent donner une chance aux réalisateurs qui ont déplacé des foules dans les salles de cinéma, non ?
Mais écoute, Ballister, tu ne feras plus de films du tout. Non, pas dans ce monde, ni sur cette planète, en tout cas. Et aujourd'hui, puisque tu parles de la télévision, mais tu sais, ce sont de jeunes androïdes qui sont placés là, comme producteurs de programmes. Ils y connaissent que dalle, mais ils donnent des leçons de scénario, de réalisation. Alors bon, heureusement, hein, leurs interlocuteurs, ce sont des robots scripteurs, conçus là. Et franchement, entre nous, tu tiendrais pas deux rounds face à eux. Les rares scénaristes non-robots qui insistent sont traités comme des Minitel.
Les intelligences artificielles, elles inventent rien. Elles nous ont tout piqué à nous. Ouf. Et le public, il dit quoi le public ? Il va bien voir qu'on lui sert à chaque fois les mêmes nouilles.
Ah, écoute, mais le public s'en tamponne, Ballister. Et même il considère qu'avec l'intelligence artificielle, la qualité des films aurait tendance à grimper vite, comme un singe au cou d'une girafe. Et je te le dis amicalement, Ballister le dingo. Il est con celui-là. À moins de te faire greffer la gueule de Robbie Marcotte ou celle de Harfi Fashion, avec évidemment un corps en titanium, des jambes en rhodium, tu peux aller pointer à l'hospice des vieux réels. Ou alors,
Ou alors quoi ?
Ou alors, tu laisses un robot directeur le réaliser à ta place.
Bah, tu plaisantes, Grafouin. Je vais pas laisser mon film réalisé par un tocard en fer blanc, fut-il artificiellement intelligent, pour qu'il massacre mon scénario. Merci bien. J'ai un style, moi. Je suis Ballister le dingo. Ouf.
Comme tu veux, il est con, celui-là. Et le monde a changé, hein. T'as fait ton temps, t'es qu'un vieux, je te le dis, Ballister.
On a le même âge.
Ben, on dirait pas, consul.
Mais c'est effroyable. Mes films, c'est quand même la mémoire du cinéma. À l'époque, les gens reprenaient les titres de mes films pour en faire des expressions populaires. Ça aurait même pu faire des chansons.
Dracula vend son sang en Transylvanie. Elvis, Frankenstein, Luca ou en Espagne. Tout ça signé Ballister le dingo. Moi qui réalisais deux films par an. J'avais bonne critique la plupart du temps. La bonne série mais le public m'adorait. Tout ça signé Ballister le dingo. Je vais devenir un robot.
Il va revenir Ballister le
dingo. Je vais devenir un robot.
Il va revenir Ballister le dingo.
C'est pas fini, je suis vieux mais pas cuit. C'est pas comme ça que je veux finir ma vie. Me mettre dans le cercueil, virer la gueule. Vous n'en verrez pas Ballister en enfer. Je vais devenir un robot.
Il va revenir, devenir un robot.
Je vais revenir, devenir un robot.
Il va revenir, Ballister le dingo.
Je vais revenir, devenir un robot.
Il va
Ok, Ballister, reviens me voir quand tu seras devenu un jeune robot.
Tu vas m'en voir plus vite que tu ne le crois, mon vieux Grafouin. Ouf.
Mais je suis pas vieux, moi. Je suis expérimenté. Il est con, celui-là.
Laissons donc le réalisateur Ballister réfléchir à une solution pour devenir un robot et vendre son scénario génial, et retrouvons Vinaigrette et le clown Papouf. Ils sont devant la porte d'une caravane posée sur des briques et des parpaings. C'est minable, mais bon. La porte s'ouvre avant qu'il ne frappe. Oh oh, voilà qui est bien mystérieux. C'est qui cette espèce de dingue enturbanée qui a ouvert ?
Entrez, entrez. Le fakir fracassant vous attend.
Vous avez prévenu cette dame de notre arrivée ?
Pas besoin, elle est voyante. Entrons vite.
Voilà donc ta nouvelle partenaire, Vinaigrette Bitounet.
C'est pas mon partenaire, c'est un clown.
Qu'est-ce que tu as découvert, finalement, chez Hérisson ? Tu menais bien ta petite enquête, non ?
J'avais débranché mes circuits, mais j'ai eu un problème de connexion. Du coup, je me suis réveillé quand Vinaigrette était au-dessus de moi. Et là, tout a dérapé.
Ça va être de ma faute, maintenant. Madame Égard vous a vu une fois et vous a tout de suite cramé. Tu parles d'un détective.
C'est parce qu'on bafouillait notre texte. Trop de confusion attire la suspicion.
D'accord. Bon alors, on le voit quand, ce fakir ?
Et c'est qui ? C'est quoi ?
Le fakir Burma, il est là, devant toi. Tout à la fois yogi flamboyant, visionnaire virtuose, télépathe épatant, hypnotiseur inouï. Guérisseur des corps et des âmes.
Il n'y a pas de temps à perdre, Fakir Burma. On a enfermé Égarf, mais elle va s'en sortir facilement et rameuter ses lézards bondissants. On va les avoir sur le dos d'ici peu. C'est quoi nos options ?
Tu as vérifié que Vinaigrette n'avait pas de robe détecteur sur elle ?
Comment ça ? On aurait mis des puces sur moi ? À l'insu de mon plein gré ?
Je l'ai checké, elle est clean. Elle a deux dents cariées, elle s'est pas lavé les cheveux depuis 12 jours, mais c'est tout. C'est une humaine, quoi.
Comment ça, vous m'avez checké ?
Bah, machinalement.
Vous êtes gonflé, vous auriez pu me demander. Entre parenthèses, c'est pas parce que je me suis pas lavé les cheveux qu'ils sont sales.
Si tu es d'accord, Vinaigrette, la force psychique du fakir Burma va plonger en toi, par la puissance du périsprit indien, afin d'entrevoir ta métapsyché. Et découvrir ce qui a provoqué l'intérêt des garfs pour ta petite personne.
Petite personne vous-même ?
Nous devons comprendre pourquoi Madame Égarf a accepté de t'engager. C'est vital.
Elle m'a engagée parce que j'étais qualifiée pour le job, pas pour un truc de méta, machin, compliqué.
Bien sûr, tu étais qualifiée pour habiller des cadavres, personne n'en doute. Mais il existe une autre raison. Il y a en toi quelque chose de profond. De déterminant. Rien n'est le fruit du hasard. Tu peux en ignorer la cause, ou alors accepter le pundit qui est en toi et t'ouvrir à la curiosité.
J'ai rien compris. Ce que je comprends en revanche, c'est que Égarf devait me trouver hautement qualifiée vu qu'elle m'a demandé d'assassiner quelqu'un.
Exactement. On doit donc comprendre le pourquoi du comment. Acceptes-tu d'être hypnotisée, Vinaigrette ?
Moyennement envie, pourquoi ? Ça va, me regardez pas comme ça. Vous attendez quoi avec vos airs d'androïde battus, là ? Et vous, la fakir, vous avez fait des études pour hypnotiser les gens ? Vous avez un diplôme ?
Comment expliquer le fluide fakirique ? Impossible. Sache pourtant que les journalistes sont séduits. Le public conquis. Et les ménestrels enthousiastes chantent le fakir.
Ça vaut pas un diplôme. Et puis j'imagine bien les ménestrels, comme vous dites.
Sex fakir Burma.
Dans l'ennui, viens à moi.
Sex fakir Burma.
Dans l'ennui, viens à moi.
Sex fakir Burma.
Dans l'ennui, viens à moi. J'étais encore un petit. J'ai découvert la planche à clous, l'Orient et ses mystères, et la cage de verre.
cristal. Les sciences occultes, c'est pas banal. Regarde bien le fakir, il lit dans ton avenir. Fek fakir Burma,
dans l'ennui, viens à moi.
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 Moi j'avais vraiment du talent, pas seulement dans le boniment. De Birmanie à Paris, la transe est mon ami. Ganesh, Krishna, le vieux Vishnu, l'Inde est arrivée chez nous. Et mes pouvoirs aussi, car Burma vous guérit. Fek fakir Burma,
dans l'enduit, viens à moi.
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 Fek fakir Burma.
Il manque plus que le corps astral dans votre chanson.
Veux-tu affronter le corps astral? Mais si le courage te manque...
J'ai peur de rien. Allez-y, faites-moi votre truc de fakir.
Va piocher des coquillages dans le bocal, là.
Ici? J'en prends plusieurs?
Oui. Tu en mets un dans chaque narine, tu respireras par la bouche.
N'importe quoi!
Puis tu jettes le reste des coquillages sur le tapis. Parfait. À présent, regarde le fakir dans les yeux.
Les coquillages dans le nez, c'est obligatoire?
C'est pour la connexion avec ceux qui sont sur le tapis. Laisse faire le fakir Burma.
Au moins, vous avez le sens du spectacle. L'encens qui brûle, la planche à clous, la lumière tamisée.
Chaman, regarde-moi, belle âme, et détends-toi. Oh, oh, tu t'endors de plus en plus. 5. Tes mains se disjoignent. 4. Tes bras reposent lourdement de chaque côté de ton corps, sans contraction. 3. Je te jette au pays du fantastique et je te projette au royaume des possibles inversés. Oui, 2. Nous y sommes ensemble. 1. Ouvre cette comme porte mentale. C'est bien.
Oh, oh, les misérables.
Victor Hugo.
Hérisson. Bitounet. Mais c'est bouleversé, Bibi Fricotin. Eh bien, c'était intense.
Qu'est-ce que tu as vu? Tu as prononcé les noms de Hérisson et Bitounet. Hérisson, c'est le nom du fondateur des pompes funèbres. Et Bitounet, le père de la petite. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ils ont un lien tous les deux?
Vinaigrette, reviens vers nous. Repasse les portes. Je vais compter jusqu'à 3 fraises tagada et tu vas te réveiller. Je commence. 1 fraise tagada. 2 fraises tagada. 3 fraises tagada, réveille-toi.
Et oh, qu'est-ce que... Où j'étais-je? Oh, c'est désagréable, ça. Oh, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de... Vous n'auriez pas des fraises tagada?
Pas le temps de manger des sucreries, d'autant que tu as déjà des caries. Vinaigrette, tu es en danger pour toi-même et tu mets notre monde en danger.
Ah, oh, le monde, rien que ça.
Papouf, tu vas te déguiser en chien. Et tu vas la déguiser, elle aussi.
J'aime pas les chiens, moi.
C'est momentané. Vous allez vous rendre au cimetière d'Anières. Vous irez sur la sépulture du chien Rintintin. Là, il y a un passage secret qu'il vous faudra découvrir. Papouf, tu retrouveras sans doute, avec plaisir, un ancien du cirque des robots.
Ah, lequel ?
Il est sous couverture, mais vous vous retrouverez.
Et vous ? Vous allez plonger dans cette baignoire pleine de clous, c'est ça ?
Il est temps d'y aller.
Elle parle toujours d'elle à la troisième personne.
Oui, sauf quand elle chante ou qu'elle est en transe.
Et maintenant, vous vous transformez en chien, mais en quelle race de chien ?
Tu vas voir. Mais je vais te déguiser aussi.
C'est pas vrai. En quoi ?
En quoi Vinaigrette va-t-elle être transformée ? Et va-t-elle échapper au lézard bondissant de Madame Egarf ? Balistère le dingo va-t-il devenir un robot ? Le fakir Burma va-t-elle découvrir le terrible complot ourdi par Egarf ? Et Egarf est-elle seule grande méchante de cette histoire ? Vous le saurez en écoutant la suite de notre feuilleton « Vinaigrette et le réveillon des chiens ». Avec, par ordre d'apparition, dans le rôle d'Egarf, Afra Waldhor, Vinaigrette, Marianne Gilbert, Clown Papouf, Jean-Pierre Dumonteil, Balistère, Jean-Charles de Talente, De Graffouin, Kafka, Fakir Burma, Valérie Fréré-Gosnet et le narrateur Léonard Hatter. De qui est la mise en onde ? Jean-Luc Mollard. Et pour le reste, c'est une production Bulle Noire. À suivre.
Notre émission de la rentrée, n'est-ce pas, de la rentrée de la nouvelle année 2025, et nous sommes ensemble comme chaque année avec Jean-Marie Nizan. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Bobolov qui est aussi avec nous.
Bonjour à tous et meilleurs vœux à nos auditeurs pour cette nouvelle année.
Voilà.
Je dirais. Et surtout la santé.
Et surtout la santé, c'est bien. Alors comme il est annoncé dans l'agenda de la radio, on va parler de la saison passée, enfin de l'année passée, du cinéma polar noir. On a fait une sélection parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, hein,
ouais,
on a pu voir sur les écrans. Mais comme vous êtes extrêmement difficiles tous les deux, déjà on a dû faire une sélection drastique. Et on a heureusement que Jean-Marie Nizan est là pour nous driver un petit peu, pour nous dire bon, il faut plutôt classifier comme ceci. Là on voit le producteur quand même.
L'éditorialiste.
Et l'éditorialiste, voilà. Là c'est clair. Et donc, tu as choisi les trois premiers films dont on a parlé. Le premier, alors là, c'est World.
Cinéma du monde.
Le cinéma du monde. Le premier, c'est City of Darkness, dont le petit Nicolas va nous faire un court résumé.
Oui, City of Darkness de Soi Chan. Fuyant le puissant boss de la mafia, Mr. Big, le migrant clandestin Chang Kwong Lo Kong se réfugie dans la citadelle de Kunlun, où il est pris sous la protection de son chef, Cyclone.
Voilà, c'était un bref résumé. Vous n'avez pas entendu, vous en souvenez de ce film, quand
très
même
bien.
Un petit peu.
Ouais, très bien.
Bon, alors, qui commence à parler de ce City of Darkness Peut-être que Jean-Marie, tu vas attaquer.
Oui, volontiers. Alors, donc, c'est pour le premier film dans la catégorie cinéma du monde. On va à Hong Kong avec un cinéaste qui est d'origine, qui est né à Macao, voilà, et qui est un pur produit de l'industrie hongkongaise, puisque voilà, il a été assistant. Enfin, il a bossé avec Johnny To, avec John Woo, enfin bon, tout ce qui se fait.
Et le gratin.
Le gratin, on l'avait repéré avec un précédent film, il en a fait 50, hein, je pense, enfin j'exagère, mais pas loin. On l'avait repéré avec un polar très très poisseux qui s'appelait Limbo, qui se passait à Hong Kong toujours et qui était en noir et blanc dans les sous-sols d'un Hong Kong crasseux, violent, ultra violent avec les femmes. Et là, on le retrouve dans un film qui est une sorte de un film opératique, on pourrait dire, qui met en scène un Kowloon. Kowloon, c'est la partie continentale qui est en face de l'île de Hong Kong. Donc, qui met en scène un Kowloon pré-réunion avec la Chine continentale, en proie aux triades et aux mafieux. Et il y a un jeune homme qui curieusement paraît plus vieux que tous les autres, mais qui
ça,
quand même...
C'est les miracles du cinéma.
C'est les miracles, voilà, c'est la licence poétique, on appelle ça. Mmh. qui se retrouve, qui revient dans cet endroit-là, on ne sait pas d'où il vient, et il se retrouve au milieu d'une histoire qui va, voilà, qui va mettre en jeu sa vie, son intégrité, et la vie de ses camarades aussi. C'est ultra violent, hyper chorégraphié, c'est trop long, comme souvent ces films-là. La mise en scène est quand même assez époustouflante, mais en même temps, on a quand même le sentiment, au bout d'un moment, d'assister à une succession de plateaux, de niveaux de jeu, en fait. Donc, en fait, il y a un moment où on se désintéresse de l'histoire, qui est quand même un peu prétexte, pour ne s'intéresser qu'à la chorégraphie et la baston. Et en fait, au bout d'un moment, ça lasse, quoi. Donc... voilà, c'est du cinéma d'exploitation hongkongais, comme Hong Kong sait en faire depuis toujours, enfin en tout cas depuis les années 50. Et c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. c'est mon avis. Hein.
C'est l'ouverture. Bobolov.
Ben, je dirais que bon, moi ce qui m'a le plus intéressé, c'est en fait. C'est cette fameuse citadelle de Kowloon, où c'est un endroit donc livré aux gangs et à tous les trafics. Bon, on pourrait penser que ce metteur en scène a réalisé ce film qui s'est censé se passer dans les années 80, il faut préciser. C'est pas maintenant. Donc il y a peut-être une espèce de nostalgie d'un Hong Kong qui a disparu, parce que les règles ne sont plus les mêmes depuis que la Chine communiste a mis la main sur cet endroit.
Enfin, c'est pas la Chine communiste qui a mis la main sur cet endroit, c'est l'Empire britannique qui a rétrocédé.
Oui, mais oui,
c'est pas tout à fait la même chose.
Sauf que les habitants de Hong Kong n'avaient pas tellement envie de se faire rétrocéder.
Non, ça c'est sûr.
Et là, pour moi, le plus intéressant dans ce film, c'est justement le décor. C'est cette cité complètement baroque, avec une espèce d'énorme taudis, mais au lieu que ce soit à ras du sol, c'est un taudis qui monte vers le ciel, et donc ça donne des courses-poursuites, des scènes d'action, où on passe du troisième étage au quatrième, au septième, au huitième, on redescend, on remonte. Bon, autrement, bon, on retrouve tous les codes du cinéma chinois de gangsters, enfin hongkongais de gangsters. Bon, effectivement, c'est peut-être un petit peu long. Puis on découvre aussi que même en Chine, il y a des Chinois qui sont des clandestins.
Ah bah oui, c'est le principe du continent et de Hong Kong.
Il n'y a pas que d'autres pays qui sont victimes, entre guillemets, de clandestins.
Bon alors effectivement, c'est un film où il y a des éléments un peu poétiques. Enfin, il tente une espèce de poésie entre le cerf-volant, enfin, différentes petites choses comme ça. Mais l'essentiel quand même, c'est du baston, ou de la baston, comme on veut. Ouais. Alors, quid justement de ces chorégraphies, qu'est-ce que vous en avez pensé, de ces mouvements de baston qui sont... Bon, moi ce que j'adore, mais ça c'est, on va dire que c'est dans la grammaire du genre, les mecs peuvent se foutre des peignées monstrueuses, mais jamais mort, quoi, même pas mal.
Non.
Même pas mal, même il n'y a pas de sang, il n'y a rien, et on peut détruire un mec, mais il est toujours en vie. Bon, il y a quand
c'est
même...
C'est
le principe, dans ce film-là particulièrement, les mecs ils peuvent se prendre des bastos, d'ailleurs il y a même une espèce de... Il faut une certaine suspension de l'incrédulité pour adhérer à tout un faux personnage, parce qu'il y en a un, de toute façon il est indestructible, donc mais malgré tout il est indestructible, mais parfois il tombe par terre, il peut être un peu blessé, et oui, on peut imaginer qu'il est mort, mais en fait il est indestructible.
Si je peux me permettre, comme dirait une certaine papesse du polar, ce n'est pas un documentaire, c'est un film,
okay,
un film d'imagination, oui, avec justement cette dimension que tu viens de souligner, un peu fantastique, qu'on retrouve souvent aussi dans les films chinois,
oui,
alors, de ce héros qui est invincible.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais à propos
ce non-héros d'ailleurs.
Non-héros, ouais, ouais. Moi, j'avais à ce propos, à propos de chorégraphie, moi, j'avais décidé que tous mes films, que tous les films qu'on allait chroniquer aujourd'hui, j'allais tous les mettre sous le signe d'un trio. Donc un trio de référence.
Wow.
Donc je vais commencer. Hein. Le trio de référence, c'est le cinéma coréen, quand même. Parce que quand même, c'est du Hong Kong, mais revisité post-cinéma coréen, je le trouve. Na Hong-jin et ces choses-là. Donc la violence un peu plus extrême que ça n'était le cas avant dans les films de Hong Kong. Et puis sous le signe de John Woo et de Stephen Chow. Stephen Chow, c'est celui qui avait fait Sharon Soccer, des choses comme ça où on rigolait bien de l'espèce d'explosion de chorégraphie d'impossibilité
qui était fait à l'époque avec beaucoup moins de moyens que maintenant,
était beaucoup plus joli que faire, ça, ouais. Ouais, absolument. Et il y a quand même un truc qu'il faut souligner, c'est que dans le film il y a Sammo Hung qui fait un des méchants, le gros,
ouais,
et qui est une figure historique de Hong Kong, du cinéma de Hong Kong. C'est un enfant de la balle, il est fils de chorégraphe et d'actrice, et il a été formé en même temps que Jackie Chan, etc. Et en fait, c'est un acteur mythique de la scène de Hong Kong. Voilà.
Bon, sur la chorégraphie des combats...
Ça danse, hein, ça danse. Ça danse, c'est de la danse.
Alors, je me souviens d'une réflexion en antenne de Bobolov qui disait qui n'était pas du tout aussi charmé que toi par les mouvements chorégraphiques de ce film, n'est-ce pas, Bobo ? Tu m'avais dit oui.
Je n'en ai aucun souvenir. Mais j'ai tout laissé derrière moi en 2024, alors je repars à neuf. Mais vas-y, précise.
Moi, tu avais dit que même par rapport à des Jackie Chan et autres, c'était vraiment...
Mais Jackie Chan, là, c'est grand maître et c'est pas trucage. Tout ce qu'il fait, il le fait, alors que maintenant, toute cette chorégraphie, souvent, ils sont suspendus à des fils. Enfin, bref, il y a un tas d'artifices qui font que, ben, on est purement dans l'exagération.
Alors, c'est un retour, en fait, au fil. C'est-à-dire qu'en fait, la tradition du cinéma de Hong Kong et chinois, c'est les câbles, en gros. Jackie Chan met une dimension naturaliste, on va dire, et qui fait qui propose quelque chose avec Bruce Lee dans la filiation de Bruce Lee, mais qui propose quelque chose de nouveau. Et là, c'est un retour effectivement, à cette tradition là qui est les superlatifs de la baston, quoi.
Bon, est-ce que c'est un film que vous recommanderiez, ce que vous diriez, bah tiens, achète le DVD puisque maintenant il n'est plus en salle, mais est-ce que vous recommanderiez à vos ennemis ou à vos amis ?
Ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. Bon, gens qui ont de l'argent à dépenser.
Je le ne rangerai pas sur mon étagère.
Non, moi non plus.
Mais la presse a donné comme note 3,8 et les spectateurs 3,8 sur 5.
Ah, c'est pas mal.
C'est vachement bien dit.
Bah oui, c'est pour équilibrer ce qu'on dit, que les gens soient au moins au parfum, des notes données officiellement par Allo Ciné.
Bon, on traverse des pays, hein, différents pays, pour se retrouver dans le cinéma de Mademoiselle Suri, le Santoche, dont le petit Nicolas va nous faire le résumé, puisqu'on passe à Santoche, si vous êtes d'accord.
Santoche de Sandhya Suri, réalisé en langue hindi. À la mort de son mari, tué lors d'une émeute, Santoche hérite de son emploi en vertu de la loi du recrutement compassionnel. Appelée pour le meurtre d'une jeune fille, elle est plongée dans une enquête tortueuse.
Voilà, le résumé est parfait, avec la somptueuse comédienne, que je trouve somptueuse, hein, personnellement, Shahana Goswami. Alors, qui attaque sur Santoche ? Peut-être que toi, Bobo, tu vas nous dire ce que tu as pensé de ce polar.
Moi, je suis plutôt un spécialiste des Indiens, mais des Indiens d'Amérique. Mais néanmoins, je parlerai de Santoche. Alors, je n'ai pas eu le temps de vérifier si effectivement ce qui est le point de départ du film, à savoir un flic disparaît, enfin meurt, et sa femme automatiquement peut récupérer le poste. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça, j'ai pas eu le temps de le vérifier parce que et je ne sais pas si ça s'étend à d'autres catégories sociales, parce que si le dentiste meurt et qu'il est remplacé par sa femme, c'est un peu plus gênant.
Je crois que ça concerne que les fonctionnaires.
Oui, c'est pas non, mais je dis ça. En faisant des plaisanteries.
J'aime pas tellement qu'on plaisante avec ça, moi.
Pas avec les dentistes.
Surtout les dentistes morts.
Ce qui est intéressant, c'est que ce film, soi-disant indien, n'est pas indien du tout, puisque la réalisatrice est anglaise, mais qui est d'origine indienne, et elle a fait des... C'est une documentariste à l'origine, donc elle a fait pas mal de documentaires sur l'Inde, elle connaît donc le sujet... Et là, ça tourne autour des systèmes de caste en Inde, puisqu'on a souvent critiqué, à juste raison, l'Afrique du Sud pour l'apartheid ou les États-Unis pour la ségrégation. Mais actuellement, toujours en Inde, il y a cette ségrégation entre les castes, les intouchables, les brahmanes, etc., etc. Et là, cette jeune femme qui récupère le job de policier de son mari, va devoir se lancer dans une enquête et qui confrontera justement les castes supérieures avec les castes inférieures. Donc il y a un scénario qui tient la route, qui est on dirait pas original, mais ça c'est pas le genre de truc qu'on traite souvent. Et le côté justement de documentariste fait qu'on est vraiment plongé dans ça fait pas du tout bidon, ça fait pas studio hollywoodien ou bollywoodien, puisque ce film, je suppose, a été plutôt fait pour un public occidental que pour un public indien, puisque leur propre production indienne n'a strictement rien à voir avec ce genre de sujet.
Bon, Jean-Marie.
Oui, en effet, il y a quelque chose, on retrouve son appétit de documenter le monde, et en tout cas ce qu'elle raconte. Je continue sur mes trios, on va pas lâcher ça. Donc il y a forcément ça t'y agiterait un peu, parce que c'est quand même l'Inde, et puis c'est quand même naturaliste par rapport à Bollywood, justement. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un cinéma indien qui ne fait pas que danser. Et j'ai trouvé, alors là, on va commencer à tirer les cheveux, ou les couper en quatre, une similitude avec les premiers films de Sean Penn, comme de Crossing Guard, le rapport comme ça un peu décalé à l'enquête policière. Et je finirai par les Dardennes, parce qu'il y a quand même toute une succession de plans où on suit cette policière de dos, où la caméra l'accompagne, comme dans les films des frères Dardennes. Et je me suis dit qu'il y avait une filiation entre tout ça. Qui est certainement dans ma tête.
Hein. Déjà, je trouve que c'est méga audacieux, hein, comme comparaison, ouais. D'une part. Et d'autre part, ça peut faire fuir les auditeurs de Bulle Noire et de Radio Libertaire. oh là là, mais attends, 600 ans chez les frères Dardenne.
Ouais, non, mais attends. Ouais, mais si tu leur vends que c'est une comédie policière, youplaboum, à la frère Cohen. Tu vas leur mentir quand même. C'est quand même.
J'ai même pas parlé de.
Non, 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 mais.
Tu l'ajoutes à ta trilogie ou quoi?
Non, il faut pas. Donc je ne déborde pas de mon trio de références. Il n'empêche que le film est. Je trouve. Alors effectivement, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est un film. On a un peu le sentiment que c'est un film indien fait pour le public occidental. Un peu de festival. Donc voilà, donc je comprends qu'il ait été sélectionné à Cannes, etc. Ensuite, c'est quand même. Je trouve que l'idée de départ est hyper bien, et puis il y a un moment où quand même on s'ennuie, quoi. C'est-à-dire que c'était tiré dans le temps, on a vite compris que le fonctionnement des castes allait être un problème et était au cœur de cette enquête policière. Et voilà, et c'est un peu démonstratif, en fait. Voilà, mais comme les frères Dardenne sont parfois un peu démonstratifs.
Je trouve que vous oubliez quand même rapidement c'est au-delà de la narration et du système de caste, qui d'ailleurs, en fait, puisque c'est pour un public occidental, comme vous le dites, les mecs, ils savent, tout le monde sait à peu près, on a à peu près les schémas sur le système de caste en Inde. Je trouve que au-delà de ça, elle est assez maligne pour mettre des personnages au sein de dans sa narration plutôt inattendu, plutôt rigolo. Il y a la nana qui joue la chef de police homo, qui joue extrêmement bien, qui est épatante, je trouve, dans le rôle. Je crois que c'est Sumita Rajvar, qui, je crois qu'elle s'appelle. Elle est épatante, elle relance d'une certaine façon, j'entends ce que tu dis sur la monotonie, mais elle relance justement la voiture ou le tuk-tuk, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Et elle relance le truc. Et à chaque fois, la machine et les personnages qui interviennent, les petits faits, les fêtes, les ceci, les cela, plus le fait que elle a l'air d'être un petit peu naïve, elle découvre le truc. Je trouve aussi que la dimension de foutre cette fille qui était pas disposée à faire ça, qui en plus est rejetée par sa propre famille, rejetée par sa belle famille, qui se retrouve coincée à reprendre le boulot de son mari, qui a en plus été tué lors d'une manif. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments en ligne qui sont beaucoup plus subtils que uniquement c'est la lutte des castes.
Bien sûr.
Rigolo et plus subtil.
C'est plus subtil. Ouais. Et puis
il faut quand même préciser effectivement qu'elle reprend le boulot de son mari parce que tout simplement elle n'a aucun moyen de vivre ou de survivre. Donc c'est tout à fait obligé, c'est pas par goût, c'est par obligation qu'elle va devoir se retrouver policière et elle va prendre son travail à cœur et mener une enquête.
Et puis elle se retrouve confrontée aussi à la misogynie,
aux agressions sexuelles sur les femmes, elle enquête sur le viol d'une gamine,
qui est un vrai problème, qui n'est pas que indien d'ailleurs, et qui est une vraie question. Donc c'est pas, je dis pas que le film est mauvais, je dis que, bien au contraire, il est plutôt même intéressant, et c'est quand même un premier film. Et de ce point de vue-là, il est assez épatant, en fait. Parce qu'il y a quand même quelque chose de la maîtrise de la mise en scène qui est assez et de la direction de comédien, etc.
J'ouvre une parenthèse, elle a été quand même sélectionnée par le Sundance Institute directeur. Donc c'est vrai que c'est un film. Bon, c'est pas un film indien. Dans la mesure où tout ça s'est produit de ce côté de la planète. Mais ce qui c'est pas un jugement sur la valeur du film. C'est pour dire, moi, à la limite, je préférerais voir un film indien sur ce problème tourné par les Indiens, mais ça se fera jamais. Évidemment.
Tout le monde est indien, à part le producteur qui est anglais.
Bien sûr.
Tout le monde est indien.
Oui, c'était sur ce que je veux dire.
Y compris elle.
Oui, oui. Le point de vue.
Toi, tu dénies un Indien qui se serait réfugié dans un autre pays, une vision.
Pas du tout.
Il est proche de Custer, en fait, un bonhomme. Ouais.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Je ne relèverai pas.
Je trouve que la dimension aussi, cette fille qui s'éveille aussi à autre chose que sa vie, est aidée par cette femme chef de police qui elle-même essaie de se démerder dans un milieu d'hommes où c'est pas évident, mais comme
elle est corrompue quand même. Il y a quelque chose sur la corruption. La corruption qui est pas mal aussi. Enfin, il y a plein de couches dans le film, en fait, qui sont assez épatantes.
Est-ce que vous recommandez ce film?
Plutôt.
Oui, absolument.
D'accord, moi aussi. Vous l'avez compris.
Je vais juste donner les notes pour ce film. C'était donc 3,8 pour la presse et 3,9 pour les spectateurs. Bon, c'est un film qui a été donc bien accueilli.
Bon, vous avez quelque chose à ajouter sur Santoche?
Non, passons au chapitre suivant.
On passe à Highway 65.
Highway 65 de Maya Dreyfus. Quelques mois après sa mutation forcée de Tel Aviv à la petite ville d'Afula, Daphna, brillante détective, découvre le téléphone abandonné d'Orly Elimelech. Connue pour ses liens avec la puissante famille Golan, cette ancienne reine de beauté est introuvable. Alors que personne ne semble s'inquiéter de cette disparition, et malgré la défiance de la ville qui lui reproche avant tout d'être une femme célibataire et sans enfant, Daphna se lance à corps perdu à la recherche d'Orly.
Bon, voilà ce film israélien. Je ne sais pas si vous l'avez apprécié. Qui attaque justement sur le film israélien, Jean-Marie? Puisque juste avant, c'était ton ami Bobolov qui a parlé de Santoche.
Par quoi commencer? Alors, effectivement, c'est un film. C'est un film policier qui. que je à mon avis inspiré dans mon cerveau malade me dit qu'il est inspiré par le privé d'Altman.
Oula.
Par certains un certain rapport au polar des frères Cohen, c'est-à-dire je rentre dans un microcosme et j'explore le microcosme en mettant un coup de pied dans la fourmilière et en voyant ce que ça fait. Et puis la dernière référence, ce serait la série de fiction sur France 3 qui s'appelle Meurtra. Et donc ce serait un meurtre à, je ne sais plus comment s'appelle la ville. Voilà, ça c'était pour mettre une petite pique. En fait, je me suis beaucoup ennuyé malgré certains personnages qui existent. Le dénouement, enfin l'espèce d'énigme autour de qui a tué cette pourquoi a disparu cette reine de beauté. Veuve d'un des fils d'un des patrons de la mafia. Oui, enfin
de la famille Golan.
Enfin, une sorte de mogul local qui est dans l'immobilier. Oui, enfin, c'est ma base sur la ville, quoi. Voilà, je me suis pas mal ennuyé. Il y a quelques scènes qui sont assez spectaculaires, quand même. Où il y a d'un seul coup, il y a un peu de mise en scène et un peu de souffle, mais sinon, voilà, je trouvais que c'était très rikiki autour de la personne de cette détective qui est déplacée. On n'imagine pas, puisqu'on nous le dit, qu'elle a été une brillante enquêtrice, mais qu'elle est mutée dans un bled paumé pour avoir comme punition parce qu'elle a balancé. La corruption de ses supérieurs et des choses qu'il fallait pas. Voilà, c'est un truc assez attendu. Et j'étais assez déçu par cette autoroute 65 qui m'a pas fait traverser Israël.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a bien une autoroute Highway 65 en Israël ? La question restera sans réponse à la fin du film. Mais là, donc, une fois de plus, par rapport au film précédent, c'est une réalisatrice.
Oui.
Et l'héroïne est une femme.
Oui.
Donc, on constate peu à peu la mainmise de la gente féminine sur le cinéma noir et polar.
La main qui étreint.
qui s'essaie.
Étrangler le cinéma des hommes.
À ce genre nauséabond. Bon, moi, ce qui m'a gêné, c'est que le point de départ, on peut le dire, c'est que on trouve un téléphone et cette enquêtrice venue à sa nouvelle affectation se retrouve avec ce téléphone entre les mains qui a été ramené par un gosse à la police, pour une fois un gosse qui a un geste citoyen, et en essayant de retrouver le propriétaire, elle va découvrir que la propriétaire a disparu, qu'apparemment personne ne s'en soucie, et tout ça part d'une vidéo qui se trouve dans ce téléphone. Or, le gros problème, c'est que ça ne tient pas au niveau technique, c'est-à-dire... Ce téléphone qui est censé l'avoir filmé, qui est censé être son téléphone, ne peut pas être son téléphone puisqu'elle est filmée à plusieurs mètres du téléphone. Et là, il y a une altercation avec quelqu'un qui est peut-être responsable de sa disparition. Donc, il y a un problème technique qu'il aurait fallu résoudre avant. C'est pas crédible. Et ça n'a rien à voir avec un documentaire ou pas. Quand on se fait des selfies avec un téléphone... Le bras étant maximum 1m20, enfin dans mon cas.
C'est le médecin qui parle.
Les chimpanzés un peu plus long. Donc ça, le point de départ ne colle pas. Il aurait fallu trouver un astuce, mais je pense que la plupart des gens, ils s'en contrefichent, puisque avec la sustentation de la crédibilité, ou je ne sais plus comment
la suspension de la crédibilité.
La suspension. Bref. Donc, il y a plein d'incohérences dans le scénario. Bon, à part ça, effectivement, ça fait plusieurs fois que je dis effectivement, il faut que je me reprenne.
On découvre là aussi une société israélienne qui n'est pas tellement glorieuse, avec toutes ces compromissions, tous ces pots de vin, enfin bref, ce qui se pratique un peu partout, et notamment dans,
c'est rassurant,
par chez nous.
Bon, nous aussi. Bon, alors vous, la dimension, quand même, la relation entre la réalisatrice Dreyfus et sa, j'allais dire, sa comédienne fétiche, Tali Sharon, qui avait déjà été d'ailleurs dans son film She's Coming Home, où elles ont manifestement... Il y a un truc qui se passe entre elles. Est-ce que la jeune Tali Sharon est le double au cinéma de Dreyfus? Sans doute.
C'est le Antoine Douanel
de Maya Dreyfus. Et je trouve que le personnage est assez bien, assez bien foutu. Bon, on ne croit pas forcément que c'est une super lumière en termes de réflexion, mais on découvre que si. On se dit quand même, cette fille, elle ressemble à rien. Elle a des, c'est le genre, elle est un petit peu. Elle fait pas tellement attention à elle, elle est pas méga féminine, elle est très, mais elle est féministe dans le sens que elle veut choisir les mecs avec qui elle a envie de baiser. Elle est assez décontractée, à bouffer comme un porc, à avoir du truc. J'aime bien le personnage que joue Tali Sharon. Je trouve ça assez rigolo. Oui. Et puis,
je dirais que c'est un peu excessif, cette volonté de transformer.
C'est caricatural. Pas tellement. Ouais. Moi, je trouve pas. Je trouve que la nana, elle vient de se faire lourder. Elle s'est fait dégager de. Elle était à Tel Aviv, je me souviens bien. Mm-hmm. Elle se fait dégager. Elle se retrouve dans un bled à la con, elle se laisse un petit peu aller. On imagine que les mecs qu'elle avait là-bas, ou le mec qu'elle avait à Tel Aviv, ça s'est terminé. Bon, elle est un petit peu dans down, quoi. Et elle est en train d'essayer de reconstituer quelque chose dans sa vie. Et d'ailleurs, dans cette reconstruction, c'est ce qu'on découvre après au cours du film, c'est que entre ce double, cette fille qui a été à cette reine de beauté, qui a été assassinée chez...
Elle a disparu,
elle a été assassinée. Mais bon, donc il y a une espèce de relation qui se passe entre ce double magnifié et elle-même. Est-ce que elle a envie, à un moment donné, il y a une scène dans la caravane, je crois, ou dans le mobilhome de cette fille, où voilà, elle regarde les fringues qu'elle a, etc. Il y a quelque chose qui se passe au-delà de la narration policière. Et puis, je trouve un autre truc, c'est que Tali Sharon, enfin le personnage joué par Tali Sharon, que j'aime bien, vous aurez compris, elle est aussi... elle est maligne. Elle manipule les mecs et on le voit pas forcément venir. En tant que spectateur, j'ai pas vu forcément qu'elle manipulait les mecs. Elle fait un petit peu bécasse et tout. Et du coup, tu t'interroges sur est-ce que c'est bien démerdé, aussi bien démerdé que ça à Tel Aviv. Mais en fait, tu découvres que c'est une grosse maline.
Oui, mais c'est là où je trouve que c'est un tout petit peu fragile sur le personnage. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, on se rend compte quand même qu'elle a des intuitions qui sont des intuitions assez justes et que c'est plutôt une... On se dit, voilà, c'est la super enquêtrice qui est mutée de Tel Aviv et qui se retrouve dans ce truc-là. Et elle va très rapidement éplucher les choses et remonter un fil, mais elle va pas voir ce qui se voit comme le nez au milieu du visage. Parce que je vais pas raconter la fin, hein, mais elle va pas voir ce qui se voit comme le nez au milieu du visage, malgré les signaux qui lui sont donnés et malgré même... elle est tellement pas à l'écoute. Il y a un truc hyper bizarre, en fait. Elle est parfois à l'écoute.
Mais ça, je trouve ça génial, qu'elle soit pas à l'écoute, qu'elle soit... j'aime bien ce truc-là.
Elle est braquée sur... Elle est,
ah oui, enfin, ouais, elle est obsessionnelle.
Oui, mais elle se trompe, en fait. Donc, mais en même temps, elle se trompe pas. Enfin, il y a un truc très ambigu dans un... Enfin, moi, je dis... Ambigu, c'est pas le mot, mais un peu bancal dans le personnage, mais qui donne peut-être une complexité qui te satisfait.
Moi, j'aime bien,
oui. Il y a des choses qui sont vachement réussies, effectivement, dans ce personnage, et puis dans la façon dont elle mène son enquête, et puis des choses qui sont assez, assez balourdes, moi, je trouve, et pas très convaincantes, quoi. Mais bon, voilà.
Bon, est-ce que vous avez quand même un...
Vous remarquerez que je ne suis pas intervenu dans votre partie de ping-pong, parce que j'estime que ce film n'en vaut pas la peine.
Il n'y a pas de place pour une troisième raquette.
On pourrait faire un double contre un simple, mais je ne sais pas si...
Mais alors justement, tu n'as pas terminé ton...
Le triptyque.
Tout à l'heure,
j'ai dit qu'il y avait un côté privé d'Altman, frère Cohen et meurtre.
Ah oui, meurtre, d'accord. Ça, c'était assez désagréable. À la limite, les deux premiers étaient sympathiques. hein, pour ouais, le ouais, film. Ouais, ouais. Troisième, c'est une saloperie. Hein.
Bon, bah, alors, à noter que la presse n'a donné que 2,9, donc nettement. Oh. Hein, et le public, 3. Mais néanmoins, ce film a obtenu le Grand Prix Reims Polar. Puisque tous les ans se tient à Reims
un festival qui couronne
les soi-disant meilleurs polars de l'année.
Vous recommandez ce film en DVD
Si on a du temps à perdre, pourquoi pas.
Nine.
Bon bah moi si. On va faire une pause musicale. Alors on va écouter un titre justement qui correspond au film dont on va parler juste après cette pause. C'est Drive Away Dolls, si vous êtes d'accord. Et le titre c'est K-Star, c'est un vieux truc. Hein. Stars Fell on Alabama.
We lived our little drama. We kissed in a field of white. And stars fell on Alabama last night. I can't forget the glamour.
Radio Libertaire 89.4 avec Jean-Marie Nizan et Bobo Love. Nous décryptons cette année 2024 du film noir et policier. Et évidemment, pour la deuxième partie thématique, c'est une grande théma déterminée par Jean-Marie. C'est toi qui as choisi. Hein.
Ah oui, c'est moi qui ai proposé.
Ah
oui,
on t'a choisi.
Alors là c'est quoi? Comment tu
définis? C'est le cinéma indépendant américain.
Le cinéma indépendant américain. Et
L'alternative à Hollywood.
Bon, d'accord. Bon, petit Nicolas, tu nous fais le résumé du premier film dont on va parler, Drive Away Dolls.
Allez, un film de Ethan Coen. Jamie, une jeune femme libre d'esprit, essuyant une énième rupture amoureuse, et Marianne, son amie pudique et réservée qui souffre de frustration généralisée, sont en quête d'une bouffée d'air frais. Elles se lancent dans un road trip en direction de Tallahassee, mais leur périple va vite se compliquer quand elles croisent la route d'une bande de truands. Deux jeunes filles homo suivies par deux vieux tueurs, la recette des frères Coen, mais avec moins de surprises.
Avec moins de surprises. Comment tu as introduit ce film? Bon, on retrouve dans ce film la fille d'Andy McDowell. Hein,
bah oui.
Qui est, elle est partout. Elle est partout. Elle est dans Substance. Elle est dans Kings of Kindness. Elle est dans Drive Your Dolls. On l'a vu dans Pauvre Créature. Bon, on va parler de cette, sans doute aussi de cette comédienne, mais peut-être d'abord du film d'un des frères Cohen. Bobo Love, qu'est-ce que tu nous dirais?
Alors, c'est donc le premier film d'Ethan Cohen tout seul, sans son frère. Son frère ayant lui-même fait son propre film en solitaire. En fait, comme le précise Ethan Cohen, il a surtout aussi travaillé avec sa femme. Sa femme qui est donc co-scénariste de ce film. Sa femme qui s'appelle Tricia Cook. Et il dit même qu'il a fait avec elle une espèce de duo comme il faisait avec son frère. Donc il la présente comme ça, non seulement scénariste, mais co-réalisatrice. Et lors d'une interview pour décrire ce long métrage, il a été dit que c'était un film sur des personnages immatures, enjoués, idiots, libertins et excités. Enfin, le film est immature, enjoué, idiot, libertin et excité. Voilà leur définition. Bon, on pense tout de suite à Thelma et Louise, version queer, puisque ces jeunes femmes vont finir par tomber dans les bras l'une de l'autre. Donc, cette fois-ci, on a de nouveau deux personnages féminins, deux héroïnes, et une demi-réalisatrice, puisque... Son mari étant l'autre demi-réalisateur. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une bonne recette à la frère Cohen. Un scénario plein de rebondissements, mais je sais pas, il y a quelque chose qui doit foirer dans cette histoire. C'est peut-être, bien que sa femme soit monteuse, il y a un problème de montage. Enfin, ça fonctionne pas. Les scènes s'enchaînent, ça devrait nous faire rire, nous faire sourire, nous faire du bien. Bon, c'est très convenu. On a l'impression de voir un truc où les batteries sont à plat. C'est un peu le lapin, le fameux lapin.
D'une marque de pile qu'on ne
voit
pas.
Qui manque d'énergie.
Jean-Marie.
Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que... Alors, je vais reprendre mon trio magique.
Est-ce que tu vas citer les frères Cohen?
Ça, c'est moche. Le spoiler,
c'est moche. Ouais,
c'est un salaud. Donc, la première référence, c'était Godard, hein, c'est À bout de souffle. La deuxième référence, c'était Jonathan Demme, ouais. Parce que quand même, quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à Dangereuse sous tout rapport. Something Wild, pour ceux qui ont des vieux souvenirs. Et puis, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le film fait référence au film des frères Cohen. Bon, en même temps, c'est un peu normal, puisque c'est un des frères Cohen. Mais sans l'espèce de magie aérienne des frères Cohen. En fait, d'un seul coup, il y a une sorte de pesanteur dans tout ça, malgré la légèreté de l'histoire, l'espèce de volonté d'emballer tout ça dans quelque chose qui va de l'avant tout le temps. En fait, le film, il ne décolle pas, il prend jamais son élan, et ça reste au ras des pâquerettes. Et il y a un truc qui est très, très, peut-être pas significatif, mais c'est qu'il y a des acteurs qui viennent faire des caméos... qui sont des acteurs épatants. Il y a Matt Damon quand même.
Damon, oui.
Il y a Pedro Pascal. Et en fait, ils ne servent à rien. En fait, ils ne servent à rien. Et tous ces personnages qui sont des personnages que les frères Cohen savent magnifier dans leurs films, ils trouvent toujours quelque chose à leur faire faire et à leur faire dire. Et c'est toujours quelque chose qui fait avancer l'histoire. Là, c'est vraiment du prétexte de base. Donc, j'étais assez, plutôt déçu. Après, on passe un bon moment, ça arrive. C'est pas très long. les images bougent et tout va bien. Mais franchement, de leur part, à tous les deux, elle est monteuse, donc on pourrait se dire. Et puis elle a monté des films des frères Cohen, donc elle sait. Voilà, ça me semble effectivement sans carburant et sans appétit, en fait.
Est-ce qu'il vous semble que le fait que Ethan Cohen se soit quand même scotché d'une certaine façon à sa comédienne principale, la jeune Margaret Qualley, est-ce que qui prend toute la place d'une certaine façon. Enfin, je trouve que
qu'elle prend plus de place que sa camarade, qui est quand même très au centre aussi de l'histoire, quand même.
Bah, l'autre, elle est quand même très effacée, et puis elle fait. Il y a une espèce de caricature de personnage. Là, il a construit un truc avec une nana extravertie.
Le clown blanc et le clown.
Voilà. Donc, ouais. On est quand même dans quelque chose. Et on est quand même dans un schéma assez classique, mais. Je trouve que, d'une certaine façon, contrairement au film des frères Cohen, où il y a un petit peu de place pour les guests, et d'ailleurs ce qui rejoint un peu ce que tu dis sur le manque de place qu'il peut y avoir à des, qu'on peut laisser à des Matt Damon ou d'autres, parce que je la trouve limite insupportable, hein, la fille d'Andy McDowell. Hein,
toujours, tu veux dire? Ou que là.
Bon, il se trouve que je suis un peu ambiancé, remarque parce importante. Que la première fois que je l'ai vu, après avoir vu Drive Your Way Dolls, pour tout vous dire, amis auditeurs de Radio Libertaire et de Bulle Noire en particulier, j'ai commencé à regarder un petit peu ses interventions dans les médias. Donc je l'ai vu chez Jimmy Fallon, et puis je l'ai vu chez un autre, dans un autre talk show. Et elle répond aux questions qu'on peut lui poser par des rires tout d'en dehors. Elle n'arrête pas de rire, ha 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 ha. Et donc j'ai trouvé une certaine fatuité chez cette jeune comédienne. Et du coup, en voyant les films après, aussi bien Substance, puisque j'ai vu Substance après, je me suis dit mais. Elle est un peu nouille, quoi, cette fille. Et d'une certaine façon, Drive Away Dolls, je trouve que la nouillitude de la comédienne imprime le film.
Ouais, ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Et son côté, parce qu'elle est magnifique, quand même. Hein.
Elle est magnifique.
Faut le dire.
Ah bah,
quand même, elle
c'est
est
un ancien mannequin.
Oui, mais remarque peut-être sexiste.
Non, mais en fait, elle donne pas tellement de dimension à son personnage. Je trouve qu'elle n'arrive pas à incarner. C'est peut-être. Enfin. Elle n'arrive pas à incarner ce personnage. Je trouve qu'elle ne lui donne pas de chair, en fait. On comprend. Il n'y a que des motivations liées au sexe, dont on a assez vite fait le tour, en fait. Et qui sont un peu.
Il y a quand même une séquence réjouissante, enfin, moi, qui m'a beaucoup amusé. C'est celle quand elle se retrouve avec les joueuses, l'équipe.
Oui,
l'équipe américaine. Là, c'est très drôle.
Oui, il y a plein de trucs rigolos. C'est pour ça que je dis, on passe pas un mauvais moment. Il y a plein de trucs rigolos, plein de trucs réussis. Il y a plein de passages. Ils savent faire quand même. Mais c'est un peu en roue libre et c'est un peu flemmard, en fait. C'est un peu paresseux.
Mais est-ce que le fait que ce soit un des frères Cohen qui réalisait ce film, justement, on se dit « Ah, c'est quand même un frère Cohen, donc on met la barre un peu haut et qu'on est déçu. »
Peut-être.
Non, je pense qu'on s'en fout de tout ça. Ça ne fonctionne pas. Effectivement, il y a plein de rebondissements dans le scénario, mais c'est un film, je dirais, ça fait fabriquer, voilà. C'est fabriqué, on voit les raccords, les coutures. C'est raté. Mais néanmoins, il y a le scénario, il y a plein de rebondissements, donc on s'ennuie pas. On voit ça sans ennui.
Bon, j'ai même pas envie de vous demander si vous recommandez.
Les notes, c'est intéressant. Alors,
la note de la presse, 4,2. Et les spectateurs, 3,9. Donc, on peut dire que là, ça a bien... Ouais,
très bonne note.
Ça a bien tapé.
Et vous-même, vous recommandez le film?
Pour les gens qui... un après-midi d'hiver, sous la neige... Pas sous la neige, mais sous le gel. Bon, c'est plus rigolo que Santoche. On a plutôt pleuré.
Oui, c'est un film du dimanche soir.
Voilà, ouais, bon.
Très bien. Alors, un autre film indépendant, selon la classification de Jean-Marie Izan, Love Lies Bleeding. Le petit Nicolas va nous faire un magnifique résumé de ce film.
Et rapide. Lou, gérante d'une salle de sport, tombe éperdument amoureuse de Jackie, une culturiste ambitieuse. Leur relation passionnée et explosive va les entraîner, malgré elles, dans une spirale de violence.
Bon, alors, dans ce film, on retrouve une actrice que je trouve insupportable.
Voilà. Kristen Stewart, je
trouve insupportable. Okay. Alors déjà, moi, c'est un peu dur. Le premier truc, c'est que...
C'est que t'as du mal.
J'ai un peu de mal, voilà. Maintenant, j'aimerais savoir si mes deux camarades, Bobo Love et Jean-Marie Nizan, partagent ce point de vue.
Non, moi, je vais commencer...
Vas-y, commence. Bobo.
Non, moi j'aime beaucoup Kristen Stewart, donc j'ai pas du tout
ces réserves
et cette répugnance. Mais que dire sur le film qui est pas complètement réussi, pas complètement raté. Pour le coup, là il y a un deuxième couteau, il y a un personnage secondaire incarné par une figure. Et qui réussit à donner quand même une putain d'épaisseur à son personnage, quand même.
Heureusement qu'il est là.
C'est Ed Harris.
Ed Harris, oui.
Qui fabrique quelque chose d'assez. D'assez épatant. Il y a DeFranco qui est assez rigolo, mais qui reste pas très très longtemps, qui rapidement prend un coup dans la gueule, on va dire. Et le personnage de la culturiste, qui je trouve assez convaincant. Là, je vais revenir à mon trio. Le trio magique.
Ah, oui. Hein, on aime bien.
Alors, le premier, ça serait Harmony Korine. Il y a un côté comme ça, indépendant, queer, et un peu, voilà. Jonathan Dame pour à nouveau Dangereuse sous tout rapport, parce qu'il y a une espèce de fuite en avant. Et Harry Cruz. Alors, tu vas me dire, pourquoi Harry Cruz? Eh bien, parce que Body.
Ah, parce que le culturisme.
Voilà.
Ouais, d'accord.
Et. Depuis que j'ai lu Harry Cruz, depuis que j'ai lu Body, sur tes conseils, mon cher ami, il y a, je pense, 40 ans de ça, ou ouais, 35, 35 en tout cas, depuis que... Voilà, j'ai eu une sorte d'épiphanie quand j'ai lu Body d'Harry Cruz, une double épiphanie, la première c'était...
C'est là que tu t'es mis à la musculation.
La première c'était Harry Cruz, donc j'ai tout lu après, ou presque, et la seconde c'était sur le culturisme. Je me suis dit, à ce moment-là, il y a une matière folle de personnages féminins, en lisant Body. Et que je retrouve là. Et en fait, dans une certaine mesure, ça me fait plaisir de la retrouver là. Et de trouver quelque chose qui est... qui est une sorte de fantaisie, parce qu'il y a quand même quelque chose de complètement... fantasmé dans le film, la fin, faut pas raconter non plus les choses, mais la fin où elle devient un personnage surdimensionné, etc. Il y a quelque chose d'assez libre que je trouve plus rigolo que chez les frères Cohen sur le même genre de thématique, un couple lesbien embarqué dans une aventure qui les dépasse. C'est plus réussi,
c'est pas rigolo.
Non, c'est pas.
C'est plus rigolo.
C'est plus amusant, je trouve. Je trouve que c'est plus réussi.
Plus réussi, mais plus parce que plus
non, amusant non. Ah oui, oh là là là, tout de suite, tu chipotes sur les mots. Non, c'est pas une comédie. Tu veux
loin
dire.
De là, oui.
Non, c'est pas une comédie. Mmh. Mais il n'empêche qu'il y a des situations qui sont, c'est over the top quand même. Et donc il y a quelque chose de plus plaisant, je trouve. Voilà.
D'accord. Bon.
Qui n'est pas partagé, manifestement.
Je trouve que Bobo Love va donner son ressenti, comme il aime bien à le faire. Enfin, je trouve que
il va mettre tout le monde d'accord.
Tout est assez fabriqué, quand même. On présente les choses bien en amont pour bien que vous compreniez, spectateur, où on va. Alors, on installe tel truc qu'on retrouvera à la fin. On installe ça qu'on retrouvera là. Toutes ces installations pour préparer le truc, ça fait très très fabriqué sur le plan du scénario.
Ouais,
j'entends. Et très rapidement, tu dis bon alors ok, ils ont mis cet élément là, on va le retrouver dans combien de minutes? On peut même regarder sa montre pour voir si c'est dans 10 ou 15 minutes. Bobo Love.
C'est un film qui se revendiquait. Bon, c'est réalisé par une femme, Rose Glass, donc revendiquée comme étant néo-féministe, c'est le néo-féminisme américain et lesbien. Bon, ça fait encore deux actrices et une réalisatrice, donc on voit quand même que cette mainmise sur le polar...
Alors, il y en a un qui va faire le trio ou la trilogie, et l'autre qui va faire dans la mainmise du cinéma.
Oh là donc, là. On se retrouve un peu là aussi, ça pourrait pas être du Tarantino ou du Cohen, enfin, entre les deux, mais bon, c'est raté, c'est tous ces scénarios avec un tas de rebondissements. Bon, mis à part, comme tu disais tout à l'heure, Ed Harris. Bon, heureusement qu'il y a le personnage d'Ed Harris qui interprète un mafieux, le père de Lou, la tenancière de la salle de sport. C'est le seul intérêt du film.
Ouais,
après, c'est bon, il y avait quelque chose, mais bon, ça fonctionne pas non plus là, malheureusement.
Non, mais il y a une bonne idée en fait.
Oui.
Il y a une bonne idée. Il y a des personnages. Il y a quelque chose à faire qui pas complètement réussi. Vous l'aurez compris, chers auditeurs. Mais au moins. Le personnage d'Ed Harris est réussi.
D'accord. Et le personnage de la jeune culturiste musclée...
Cathy O'Brien.
Ouais, vous l'avez trouvée comment, elle ?
Bah, elle est bien musclée, ouais. Ouais.
Non, mais dans son jeu... est-ce que vous avez...
Non, mais elle fait
vous
le avez, job.
Est-ce que vous ça fonctionne pour vous, la relation avec le personnage de Lou joué par Kristen Stewart ?
Oui, il y a quelque chose qui fonctionne, je trouve. Mais c'est un personnage curieux, quand même, Cathy O'Brien. C'est une bouseuse qui est un peu paumée dans le monde dans lequel elle déboule. Et elle est un peu le jouet de tout le monde, au fond. Jusqu'au moment où elle poursuit un rêve. Il y a un truc un peu curieux dans ce personnage-là, quoi.
Moi, je trouve que le personnage de Kristen Stewart marche pas, surtout. Elle, à la limite, je comprends. En plus, elle couche avec un mec, elle est bi, donc même. Elle va coucher avec des mecs, selon ce qui peut l'arranger ou ce qui peut la sortir de son état de bouseuse. Bon, elle a des rêves. Bon, elle a les rêves on a les rêves qu'on peut. Je trouve que le personnage qui est pas bien dessiné, justement, c'est le personnage de Lou, joué par Kristen Stewart, qui est... ou d'ailleurs, moi j'ai le sentiment que Kristen Stewart a pas les pions, elle sait pas ce qu'elle doit défendre comme personnage.
Ah ouais,
et qu'elle est un peu paumée elle se retrouve dans un film où elle est paumée, manque de repères.
Ah ouais, sans doute.
Bien, sur les paroles du docteur Freud,
oui.
Nous allons donner les notes. Donc,
ça, c'est le docteur Freud qui donne les notes.
Oui.
Non, c'est lui, le docteur Freud.
Alors, bon,
moi, je suis le secrétaire du docteur Freud. Alors, la presse 3,7 et les spectateurs 3,5.
Bon, vous recommandez ce film ?
Ça fait partie, c'est comme le film précédent, bon, pour passer un petit moment de déprime, mais ça fonctionne pas. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Même problème que précédemment. Je sais pas si c'est au niveau du montage ou au niveau le scénario qui est pas assez abouti. Bref.
Oui, il y a un problème de rythme sans doute.
Oui, oui.
Et de distance par rapport à.
Par
rapport au film, quoi. Enfin,
on n'est pas là pour régler leurs problèmes.
Hein. Non.
Réglons déjà les nôtres.
Alors, d'une certaine façon, le film suivant, Anora. C'est un petit peu différent d'ailleurs, je trouve que même l'ambiance est différente de Drive Away Dolls et Love Lies Bleeding. Je trouve que...
Il faut pas que peut-être Nicolas devrait...
Oui, il va dire le truc, mais je dis par rapport à cette classification, peut-être que... mais pourquoi pas. Allez, Anora, alors, petit Nicolas, dis-nous de quoi que ça parle, Anora.
Anora est une jeune stripteaseuse de Brooklyn et qui se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant, mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage. Film de Sean Baker de 2h19.
Tout de même. Alors, qui attaque sur Anora ?
Ben, n'oublions pas aussi que c'est la palme à Cannes cette année, si je ne me trompe.
Tout à fait.
C'est la palme. Alors, Bobolov, tiens, commence.
Une palme d'or pour ce film. Bon, faut dire que ça fait des années que ce qui passe à Cannes, c'est pas le mieux, et les palmes d'or, idem. Donc, c'est archi convenu. C'est cette petite stripteaseuse qui a envie de sortir de son pauvre état de stripteaseuse en épousant un mec riche. Bon, c'est l'histoire classique du conte de fées. Bon, comme le film de Pretty Woman. Voilà, c'est une version Pretty Woman, mais ça parle russe. En partie. Alors, non, mais je vous laisse, je vais pas tirer la couverture à moi. Vous avez eu le temps de vous exprimer.
Jean-Marie.
On est toujours sur. C'est marrant parce que quand même il y a quand même des invariants quand même. Je trouve. Ouais. On est toujours sur les mêmes références quand même. On peut toujours balancer les frères Cohen. On peut toujours balancer Tarantino. On peut toujours balancer Jonathan Demme. On peut toujours balancer. Alors il y a peut-être un peu plus de Godard là. Et encore, je suis même pas sûr. Mais voilà, c'est toujours. J'ai l'impression quand même que le cinéma, un certain cinéma américain. Se nourrit des mêmes choses et en fait ressasse les mêmes choses et refait les mêmes choses. Moi, il y a le film, parce que le film est un peu. Il est en plusieurs parties, il se découpe en trois parties en gros. La première partie, qui est une forme d'exposition, est plutôt rigolote et alerte.
Oui.
Et le personnage, le personnage féminin est assez enthousiasmant. Le délire de son petit ami. Est plutôt marrant. Enfin, il y a quelque chose d'assez, d'assez effervescent, j'ai envie de dire. La deuxième partie, c'est-à-dire avant que les parents arrivent, c'est-à-dire jusqu'au mariage, et puis avant que les parents russes arrivent, qui est une sorte de poursuite avec deux ou trois hommes de main arméniens, deux arméniens. Est pas complètement maîtrisé et réussi. Et pourtant, les personnages sont plutôt pas mal. Il y a quelques fulgurances plutôt rigolotes. Et la troisième partie, qui est après l'arrivée des parents, et puis là, donc le divorce, hein, j'ai envie de dire. Ça marche plus tellement. Je trouve que la conclusion du film, elle est hyper attendue. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est sur un personnage féminin. Par rapport au female gaze des trois précédents films ou des précédents films, là, on est sur quand même quelque chose qui est pas loin du male gaze quand même là-dessus, je trouve, et qui me fatigue un petit peu, mais bon, bref. Mais au milieu de ça, il y a quelques scènes qui sont, je trouve, extraordinaires. Voilà. Il y a la scène dans l'aéroport avec les parents, qui, d'un point de vue du dialogue, est quand même super bien. La scène où de baston avec les trois qui arrivent dans la maison et qui essaient de maîtriser Anora, qui est super réussie. Il y a quelques trucs qui marchent. Et puis, sur l'ensemble, c'est une comédie. Là aussi, c'est une comédie du dimanche soir, un peu. Camp. Enfin, un peu post-MeToo, rigolote, quoi. Mais c'est pas beaucoup plus que ça.
Et je trouve que ton triptyque aurait dû être complété par on aurait dû parler peut-être de Very Good Trip, la série Very Good Trip. Il y a aussi ce côté Very Good Trip.
Ouais.
Bon. On arrive, cette fois-ci, non pas...
Je trouve assez étonnant, d'ailleurs, que vous ayez trouvé la première partie assez pétillante. Alors, il faut dire que la première partie, pour les auditeurs de Bulle Noire et de Radio Libertaire en général, qui n'auraient pas vu ce film, la première partie consiste à présenter cette jeune Anora qui fait du striptease. Hein, ouais. Bon, elle va pas d'ailleurs au-delà du striptease, elle se retrouve dans des cabines, mais manifestement, ça reste que...
elle ne fait pas de prostitution.
Oui. C'est-à-dire qu'à la première proposition, elle y va quand même.
Oui, mais elle n'y va pas naturellement. Mais on met la présentation de ce personnage assez dessalé, qui en a vu d'autres, qui sait comment fonctionnent les mecs, qui voilà, qui fait ça dure hyper longtemps, quoi.
Oui.
Je trouve que cette l'installation dure trop longtemps. Le film, le petit Nicolas nous dit que ça fait 2h17. Je veux bien le croire.
Non, non, on les sent. C'est ça que
on
je veux dire.
On les sent, surtout ouais. dans la première partie qui est longuette. Bah oui, tu peux. Ça va, on a compris, quoi. Au bout de. Alors, on ne comprend pas très bien, bah, parce qu'elles ne sont pas spécialement. Ce ne sont pas des séquences qui sont sexuées, d'une certaine façon. C'est juste un truc de mécanique, comme ça, du travail de cette fille. Bon. Ça dure.
Documentaire,
tu vois. C'est un documentaire. Après, elle se retrouve, la deuxième partie, comme tu le disais, Jean-Marie, elle se retrouve avec ce mec. Quelle ambiance. Au début, l'ambiance, il est un petit peu dingue. On ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi il l'épouse finalement, parce que. Bon, il est ambiancé, il la trouve ça rigolote, etc. Est-ce que le seul truc que je trouve assez intéressant dans le film, c'est le fait que cette nana hyper dessalée veut y croire.
C'est le rêve américain.
Et
tout
oui,
le
c'est
temps.
Ce que j'allais voilà. dire. On est aux États-Unis.
Ça fonctionne sur ce truc-là.
L'argent.
Oui, elle est dessalée, mais quand même, elle veut y croire. Elle sait bien que c'est impossible, mais elle veut y croire. Et ça, je trouve que c'est un élément assez rigolo. Ouais. Arrive là-dessus. Alors ça, c'est quand même assez ficelle. Notre camarade, le capitaine Volkonov, d'ailleurs, c'est ça, hein, qui réplique, le mec qui tombe amoureux d'elle au cours du film, qui est le type qui est censé...
Ah, mais voilà pourquoi il me disait quelque chose.
Ouais, ouais.
Alors, il est hyper bien, d'ailleurs.
Qui est vachement,
il est vachement
toujours
bien.
Pareil, non, qui est très bien, mais,
ouais, mais il est hyper
pareil.
Bien, là.
Et la troisième partie, il y a les parents qui répliquent. C'est pas très inventif. La mère se trouve qui est une, manifestement, on a l'impression que c'est une ancienne reine de beauté qui a peut-être été elle-même une danseuse de gogo à droite à gauche. Je trouve que c'est une caricature de personnage. Et je trouve que
non
la fin,
tout est
je suis d'accord avec toi, la fin part en sucette. Et c'est pas bien. Et je trouve qu'en plus, le film n'est pas bien dimensionné. Il n'est pas bien réparti. Les séquences sont mal foutues. Donc, voilà.
Malheureusement que vous n'étiez pas au jury du Festival de Cannes. Hein.
Alors, il avait fait, parce que c'est une star du cinéma indépendant, John Baker, quand même. Il avait fait quelques films qui avaient marqué, comme The Florida Project,
oui,
ou Mad Rocket, qui n'étaient pas inintéressants,
j'ai
d'ailleurs.
Je n'ai jamais été fan. Je ne suis pas fan ni de Florida. Je trouve que c'est attrayant. On se dit, ah, c'est sympa, etc. On voit un peu la bande-annonce, on se dit, ouais, ça peut être... Comme pour Anora, d'ailleurs. Mais en fait, c'est une déception.
Ouais.
Les films ne sont pas à la hauteur de la bande-annonce.
Après, pour revenir sur la Palme d'Or cannoise, n'oublions pas, enfin, la présidente du jury, c'est Greta Gerwig. Et donc, c'est...
Eh oui.
Une...
Un petit coup de pouce aux copains.
Ben oui, c'est-à-dire qu'on... Enfin, je ne sais pas si c'est un coup de pouce aux copains, mais c'est... On sent la patte de quelqu'un qui fait partie de ce milieu-là,
oui,
du
enfin,
cinéma indépendant.
Qui en a fait partie, mais maintenant qui tourne pour des grosses boîtes.
Oui, Sean Baker tournera dans des grosses boîtes.
Bon, on fait vite, il faut qu'il donne les notes de...
Alors, la presse, 4,2. Et les spectateurs, 3,9. Donc, encore bien accueilli.
Très, très bonne note.
Très bien accueilli. Bon, plus la Palme d'Or.
Je ne vous demande pas si vous mettez la Palme d'Or à ce film.
Non. Mais moi, je mets la Palme d'Or à aucun film que j'ai vu de la sélection de Cannes. Donc.
D'accord. J'imagine que Bobola, c'est pareil. On fait une
et je ferai remarquer qu'une fois de plus, l'héroïne est une femme.
Très bien. Bon. Alors, on va écouter un morceau qu'il y a dans le film Emilia Pérez, parce qu'il sera question d'Emilia Pérez dans cette troisième partie d'émission. Bon, ça, c'est d'ailleurs Jean-Marie Nizan qui nous a dit « Ah, il faut absolument écouter ce titre
bah, !» C'est-à-dire que pour quelqu'un qui, comme moi, je sais que ça va choquer, déteste Georges Brassens, là, on a une version d'une chanson iconique de Georges Brassens qui prend une autre dimension.
Allons-y.
Te dedico este poema a la que fuera tan amada durante fugaces instantes. A la mujer de mis noches, a la que se iba al alba sin nunca de ella. ¿A quién le dio de mis fuentes y cuyo misterio me falta? ¿Cómo?
Je savais que ça allait être clivant.
Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais. Bulma, Radio Libertà 89.4 avec Bobo Love et Jean-Marie Nizan. On est en train de débriefer sur l'année 2024 du film noir. Et on va passer à une troisième partie française. Mmh. Hein, avec Emilia Pérez, Le Royaume et Miséricorde. Mais on commence par Emilia Pérez. Et d'abord le résumé.
Bah oui.
Surqualifiée et surexploitée, Rita use ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle. Aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Film de Jacques Audiard, 2h10.
Très bonne présentation du petit Nicolas. Voilà. Alors, Emilia Pérez, avant le truc, d'ailleurs, tu as dit Emilio Pérez.
Ouais, c'était pour rire.
Oui, c'était pour rigoler. Oui.
Alors, Emilia Pérez, Jean-Marie, tu attaques.
Alors, c'est la Palme d'Or consort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Grand Prix, c'est mission sans bon de Cannes.
Et prix d'interprétation féminine multiple.
Prix d'interprétation féminine aux quatre actrices.
Enfin, aux trois actrices.
Non, aux quatre.
Ah bon ?
Ouais, elles sont quatre. Parce qu'il y a,
pour moi, il y a trois actrices et intransitionnelles.
Ah oui.
Il y a fond.
Il est asleep par rapport à woke. Donc, ok.
Yes, I am asleep kangourou. Oui.
C'est dormeur.
Voilà, c'est dormeur. Ouais, voilà.
C'est dormeur.
Je suis partagé sur Audiard. C'est parfois génial, parfois complètement raté. Et là, en fait, c'est entre les deux. En fait, on ne sait pas très bien ce qu'il a envie de faire. Je comprends pas très bien le projet. Parce que le projet pourrait être... il ne suit pas ses personnages, il n'en fait rien. Mais je pense que le projet est vachement plus léger que ce que j'imagine. C'est-à-dire qu'il est, au fond, de faire une petite comédie musicale, une opérette. Mais le problème, c'est que quand il fait cette opérette, il lui met une charge scénaristique et des personnages qui portent des choses et qui, d'un seul coup, devraient tirer le film vers quelque chose qui n'atteint jamais, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnages incarnent des conflits, des débats, des questions, des choses politiques, du genre, du rapport à l'économie, de la lutte des classes, etc. Et en fait, il ne fait rien de rien. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait toujours pchit. Il y a une séquence, par exemple, dansée, où Zoé Saldana danse pendant une collecte de fonds pour riches mexicains.
Donateurs.
Qui sont
des politiques, qui sont des mecs de la mafia,
la corruption au sens large. Oui. Et elle part dans une sorte de one woman show très très beau d'ailleurs, où elle danse bien, elle est belle, enfin tout fonctionne.
Sauf où elle dénonce tout.
Où elle dénonce tout, mais ça fait pchit à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien.
Oui, elle se rassoit.
Elle se rassoit, pof, end of the story, on passe à la suite. Voilà. Donc en fait, le film devient d'une vacuité absolu, alors qu'il est il déborde d'intention. Et c'est un truc très très étrange, je trouve, qui est de c'est comme si on prend... Il y a certains gâteaux dans certaines pâtisseries où il y a une débauche de couleurs, de matière, etc., et qui n'ont le goût de rien. Là, c'est un peu ça, je trouve. Voilà. Et pour finir sur ma trilogie, c'est plus large, c'est pas sur ce film-là, c'est sur l'ensemble de l'œuvre de Audiard qui oscille entre Kubrick, parce qu'il essaie de faire un film différent à chaque fois, Melville pour sa rigueur, et Demi pour son côté foutraque. Et là, il est entre il sait pas où il est, en fait, je pense.
Bon, moi, je trouve que le film est hyper déplaisant, Emilia Pérez. C'est un film, je pense qu'Audiard... est un mec déplaisant. Je pense qu'il est c'est un gros prétentieux qui sent pas qui sait plus où il est, qui est hors sol, et tout ce qui est présenté dans ce film et Limite des Becs-Temps, ils vont quelque chose... alors, c'est une comédie musicale ratée, parce qu'il ne sait pas faire de comédie musicale. Il devrait prendre des leçons. Il y a la moindre séquence musicale d'un Spike Lee, c'est virtuose, c'est magnifique par rapport à ce que sait faire. Il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire de la comédie musicale. Il aurait dû peut-être en regarder un peu plus, revoir les classiques. Mais je trouve aussi que c'est débectant parce que ça vend quelque chose qui n'est pas. Ça vend une saloperie. Parce que si on connaît un petit peu le Mexique ou si on sait un petit peu comment fonctionne le Mexique, c'est des millions de morts. On a fait une émission ici avec un auteur qui avait écrit un bouquin sur les cartels mexicains. Il fait un truc et un peu conte de fées, Jacques Demy au pays des cartels, mais c'est mensonger, et parce que ça se voit un petit peu réaliste, même si c'est de la comédie musicale. Yvan, parce que le personnage principal va dans différentes cliniques pour se faire refaire entièrement le visage. Il vend le truc comme si c'était grise, quoi. On est comme si on allait chez le coiffeur. Tout est rigolo, les mecs ils sont en train de se faire opérer, ils lèvent la tête, mais non. Mais la transition, c'est pas rigolo, quoi. C'est pas de la rigolade, c'est dur, c'est difficile, ouais, hein, ouais, psychologiquement, mais même physiquement, les opérations. Ouais. Ils vendent le truc comme si c'était c'est comme si on se faisait refaire la mettre du botox. C'est pas ça, quoi. Mmh. Ils vendent tout. Ça passe à la moulinette Audiard et je trouve que ça sent pas très bon. Il n'est pas une seule question des pauvres, des péons, des mecs qui sont assassinés. Ouais, alors l'autre, le tueur devient une passionnariat. Tout est un peu foireux parce que le scénario tient pas debout. Ouais, je trouve que ça sent pas bon, quoi. Et puis, je trouve que les comédiens, alors celle qui joue sa femme en particulier, autant je peux comprendre qu'on donne un prix éventuellement à l'actrice principale, d'ailleurs, celle qui danse, etc. Encore quelque chose. L'autre personnage, le gangster devenu femme de gangster.
Carla Sofia Gascón.
Ça va aussi. Les deux autres, la femme officielle du gangster joue comme une saucisse. Et
elle a raté sa transition, si je comprends bien.
Elle est nulle. Et la maîtresse, la nouvelle maîtresse du gangster devenue femme, est mauvaise, quoi. Enfin,
il fait rien de cette séquence.
Oui, il ne fait rien
de cette séquence. Je vois très bien ce que tu veux dire sur le côté déplaisant. C'est-à-dire qu'en fait, il fait. Chaque séquence est chargée de quelque chose, potentiellement, et en fait, elle ne débouche sur rien. Donc, en fait, c'est hyper... Il y a quelque chose d'un peu vulgaire et de brutal dans ce regard complètement léger, en fait. Et qui est assez déplaisant.
Et en fait, il n'aime aucun personnage.
Aucun.
Finalement, le seul personnage qu'il aime bien, c'est la crapule quand il est une crapule.
Ouais.
C'est le seul personnage qu'il filme bien, et d'ailleurs qui a un discours et qui c'est le seul.
Ouais.
Donc voilà, c'est le seul auquel il est attaché. Tout le reste, il n'aime pas. Le Bobolov, qu'est-ce que tu
dis? Quand on va au cinéma, on se tape en général près de 20 minutes de publicité et de bande-annonce. Donc, j'ai vu la bande-annonce d'Emilia Pérez, et les bandes-annonces maintenant sont de plus en plus des résumés des films. Donc, quand j'ai découvert cette histoire d'un boss d'un cartel qui s'appelle Manita, c'est une espèce de gros porc qui a envie de devenir une gonzesse, et qui, une fois devenue une femme, va devenir un ange, c'est-à-dire une espèce de transition non seulement physique, mais de transition mentale. J'ai dit, oh là 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 là. La couleuvre est trop grosse pour ma petite bouche, il n'est pas question que j'avale ça, donc je ne me suis pas déplacé. Et je crois, en vous entendant, que je n'ai pas eu tort.
Bon, très bien, on va vite...
Néanmoins, les notes, soyons honnêtes, la presse 4,1 et les spectateurs 4,2.
D'accord. Allez, on fait vite, on fait le royaume, on passe à la... on va en Corse.
Le royaume de Julien Colonna. Corse 1995, Lesia vit son premier été d'adolescente. Un jour, un homme fait irruption et la conduit à moto dans une villa isolée où elle retrouve son père, en planque, entouré de ses hommes. Une guerre éclate dans le milieu et l'étau se resserre autour du clan. La mort frappe. Commence alors une cavale au cours de laquelle père et fille vont apprendre à se regarder, se comprendre, s'aimer.
Bravo petit Nicolas, pour ce résumé. Tiens Bobo, tu vas attaquer sur le royaume et tu vas faire
alors,
vite.
Là, nous sommes plus au Mexique de Pacotille, nous sommes en Corse. Et j'avoue que ce film a été une super bonne surprise pour moi, parce que on sent quelque chose, on sent la Corse. Ça fait pas bidon comme d'autres films qui se passent en Corse où ça se passe en Corse, mais on sent pas la Corse. L'histoire qui nous est contée avec des acteurs que a priori on ne connaît pas. Peut-être que ce sont des acteurs qui font du théâtre ou je ne sais pas quoi.
Non,
encore,
c'est des acteurs amateurs.
En tout cas, ils sont extrêmement fameux. L'histoire donc, qui se situe dans les années 95, bon, une histoire classique, on peut dire, des problèmes qui s'opposent encore. Enfin, ça part sur une histoire classique, c'est-à-dire des affrontements entre clans, plus exactement. Encore, c'est plutôt des clans que des gangs. Donc, c'est une réussite du cinéma français de cette année. Je dirais que c'est un des meilleurs films, avec, au niveau du scénario, quelques petites choses qui auraient été à revoir. Mais dans l'ensemble, ça tient bien la route. Les acteurs sont vraiment fameux, notamment, là encore, un personnage féminin d'adolescente. Je précise que le film a été réalisé cette fois-ci par un homme. Attention, hein. qui est excellente, son père super fameux, bon, je trouve...
Giovanna Benedetti, c'est la comédienne qui joue...
Par rapport à ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, enfin un film, enfin du cinéma, et enfin un scénario. Réveillez-vous.
Parce que je trouve tant de dithyrambes
oui.
Un peu excessives. C'est-à-dire que je trouve
comme tout dithyrambe.
Il y a plusieurs choses. C'est un premier film et il y a une maîtrise absolue quand même, ce qui est quand même quand même assez épatant. De point de vue du scénario, coécrit avec Jeanne Herry, il y a quelque chose d'un peu fragile quand même, c'est-à-dire que le principe, c'est son histoire à lui, hein, c'est tiré de son histoire à lui. C'est-à-dire
oui,
son rapport avec son père.
Voilà, ses rapports avec son père, mafieux, etc., Corse. Et je trouve que la proposition est pas complètement tenue. C'est-à-dire que la proposition de départ, avec un très très beau plan d'ouverture, où on suit cette jeune fille qui va éventrer un sanglier, donc on va se dire... Enfin, je suis avec cette. Je vais tout regarder du point de vue de cette jeune fille. En fait, il le lâche à chaque fois qu'il a envie de se retrouver entre hommes à faire le coup de main. Et ça, je trouve ça un peu déplaisant. Bref, un peu dommage et un peu à côté de la plaque. Pour revenir sur les références, là, il y a clairement un truc naturaliste qui vise vers Piala, qui regarde du Piala. Enfin, il en a vu en tout cas. Il y a du Melville et il y a un peu du Truffaut avec ce regard ce regard des enfants sur la vie des adultes. Mais quand Truffaut s'engage là-dedans, il lâche jamais le regard des enfants. Là, il lâche le regard des enfants par moments, et ce qui sont des moments cruciaux, et je trouve ça hyper dommage en fait. Et puis ensuite, pour finir, il y a quand même quelque chose sur la morale du film que je trouve hyper étrange en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Je veux dire, il y a une prolongation de ce dont tous souffrent. Et je trouve ça... Voilà, je trouve que le discours proposé est étrange. Mais bon, c'est certainement parce que je ne suis pas corse. Et que cette fascination pour la violence et pour les hommes... Cette fascination des hommes corses pour la violence et pour le monde des hommes, quelque chose qui m'est complètement étranger. Mais c'est quand même un film passionnant. Voilà.
Justement, c'est ce que tu dis est assez juste, mais du coup, ça donne quelque chose d'assez réaliste par rapport à ce monde aux Corses. Je connais un peu plus peut-être la Corse. En tout cas, j'ai vu un peu plus les Corses fonctionner. Je trouvais que c'était assez juste là, cette vision justement du truc, du rapport des mecs, du rapport au silence, du rapport à ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, etc. Bon,
là, tout fonctionne. sauf la proposition de départ. La proposition de départ, c'est que tout doit être vu par le regard de cette jeune fille, qui est d'ailleurs assez magnétique. La comédienne est géniale, et il y a plein de choses qu'elle fait passer, etc. Mais il y a quand même toute une série d'événements et de moments et de séquences du film où il oublie ce personnage-là, et je trouve ça hyper... pour revenir dans quelque chose qui est classique, mais une histoire de gangster de mec.
Oui, c'est toi qui lui donne, qui donne au réalisateur cette proposition. Si ça se trouve, c'était pas la sienne.
Bah, enfin, si, parce que il ouvre le film avec elle, oui, et il le ferme avec elle. Donc, oui, c'est son histoire qu'il raconte. Donc, je peux imaginer que l'idée est de raconter ça du point de vue de la fille. Eh ben, sauf qu'il l'abandonne par moment parce qu'il sait pas quoi en faire. Enfin bon, bref, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je trouve ça bancal.
Bon, il faut faire très très vite si on veut avoir le temps.
Alors,
faire,
note de la presse 4,1 et des spectateurs 4.
Ok, on passe à Miséricorde.
Miséricorde, bon, je vais en... Ah ben non, il faut le présentation.
Film d'Alain Guiraudy, Jérémy revient à Saint-Martial pour l'enterrement de son ancien patron, un boulanger. Il s'installe quelques jours chez Martine, la veuve du boulanger. Mais entre une disparition mystérieuse, un voisin menaçant et un abbé aux intentions étranges, son court séjour au village prend une tournure inattendue.
Bien, je vais commencer. Pour moi, c'est du cinéma potache. Tout simplement, on sait que ce metteur en scène, ce réalisateur, il aime bien filmer ce qu'on ne présente jamais au cinéma, notamment les ellipses. Par exemple, dans un de ses films, on voit un jeune garçon sodomiser un type qui est en train de mourir. Bon, personnellement, ce genre de cinéma, ça passe pas. Non, je vais pas au cinéma pour voir ça. Je parle du cinéma potache, puisque là... Oui. Jusqu'à présent, on avait des héroïnes, des lesbiennes, et là, cette fois-ci, on a un héros, mais qui est attiré à la fois plutôt par les garçons et un peu par les dames, surtout si elles ont un certain âge.
Jean-Marie.
Alors, Guiraudy, c'est un cinéaste français important quand même, enfin en tout cas qui marque son territoire, si je puis dire, qui est qui est passionné par, on sent le western et Ford, enfin les paysages, etc.
Attendez, je suis en train de m'étrangler.
Laisse-moi avancer. Et qui est aussi passionné par Mocky, je pense, et aussi passionné par Max Pécasse, à mon avis. Donc en fait, il est à la fois passionné par les grands espaces, les grands espaces et la gaudriole. Et en fait, il fait tout ça avec une nonchalance qui confine à la flemmardise. Donc il y a des moments où, dans certains films, ça fonctionne. Non, pas de soleil pour les gueux, il y a quelque chose de spectaculaire qui est presque un western. Là, moi je m'ennuie très vite, j'ai quand même l'impression qu'il y a 50 fois le même plan, et j'ai quand même l'impression qu'il fait le film uniquement pour faire un plan, qui est celui où on voit un curé bandé. Et en fait, c'est là où c'est potache.
De profil.
Et
sans avoir un joli patron de berger.
Hein. Oui. Sans avoir, c'est précisé au générique, sans avoir eu sans un recours et sans trucage.
Sans les fils de Hong Kong. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même le sentiment dans cette histoire...
Ce qu'il faut, puisque
On a quand même le sentiment dans cette histoire et dans ce film... Que ce n'est prétexte à montrer que ça. Et en fait, à ne raconter que ça, quoi. Et moi, au bout d'un moment, enfin, je veux dire, quand j'ai vu le plan, je me suis dit, ok, donc c'est ça l'aboutissement de son film. Tout ce qui s'est passé avant me sert à me raconter ça, je m'en fiche. Et tout ce qui me sert après ne me sert plus à rien. Et en fait, ça m'ennuie, quoi. Ça m'ennuie. Alors, pour une fois, parce que le film précédent, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui se passait dans une ville qui était affreusement laid, au moins celui-ci est beau. Voilà. Donc il y a un truc...
Bon, il y a quand même une... effectivement, je suis d'accord avec toi sur le côté Mocky. Et il y a d'ailleurs...
sans la fantaisie, je trouve. Enfin, il y a quelque chose de...
Il y a quand même
quelque chose de foutraque chez Mocky qui n'y a pas là, quoi.
Oui, il n'y a pas là. Mais
c'est quand même assez carré.
Oui, oui, quoi, parce que ça manque de personnel. Il faut dire que ça se passe dans trois villages et ces trois villages sont peuplés de 5 personnes ou 6 personnes, dont
manque de moyens.
Je trouve qu'il n'y a pas tellement. Il y a une séquence quand même que je trouve assez exceptionnelle, c'est quand il se retrouve dans la forêt, il hésite un petit peu, le personnage principal, et qu'il croise les deux gendarmes et que les gendarmes l'interrogent. Il est prêt à quasiment se livrer. Et puis il est sauvé par le curé à grosse bite. Et c'est assez marrant. Il y a un truc qui se passe. Pour ça, les auditeurs qui ont envie d'aller le voir. Non, je ne trouve pas si mal ce Miséricorde. Bon. Je ne suis pas d'accord avec vous. On fait vite la suite avec Conclave. Allez.
Encore une histoire de curé, non?
Alors encore. Mais là, c'est les curés, on ne les voit pas dans la même position.
Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde.
Le pape est mort, un nouveau pape est appelé à régner.
Abemus papam, à régner, quel drôle de nom. Oui.
Alors,
Jean-Marie. Une sorte de... Bah là aussi, c'est un film du dimanche. C'est un thriller, papal.
Adapté d'un roman de Robert Harris.
De Robert Harris, oui.
Qui a été publié en 2016 chez Plomb.
Oui. Je trouve que c'est pas complètement réussi, c'est pas complètement raté non plus. Il y a plein d'hésitations, il hésite à aller trop loin, et il devrait aller plus loin. Il y a des moments où il essaye d'aller un peu plus loin, voilà, où il lorgne vers Sorrentino ou Fellini, et là, on sent que ça pourrait prendre une dimension assez passionnante. Et puis, il y a des moments où il se retient, où il est dans le... Je raconte une histoire quand même avec une passation de pouvoir. Et là, on est plus chez Preminger ou voilà, ou dans le cardinal, et c'est moins passionnant. Après, c'est hyper bien joué, quand même. C'est pas mal construit, et puis on suit le film avec plaisir. Voilà, c'est pas un grand film, mais c'est pas désagréable.
Que ce qui était gênant, mais bon, c'est gênant qu'au début, c'est que tous ces gens parlent en anglais, puisque c'est un film anglais. Bon, ça fait partie, c'est comme les films...
De temps en temps, il parle un peu italien.
Oui, oui, mais la majorité
du temps... Et lui-même, il parle latin.
Oui.
Mais la plupart du temps, donc ça, c'est gênant, mais bon, ça fait partie des problèmes du cinéma où les Allemands parlent américain aussi dans un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est très, très bien interprété par Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini, entre autres. L'histoire, le point de départ, donc, c'est la mort du pape est évidemment suivi d'un conclave. Donc on voit les oppositions qui règnent entre les différents courants, les traditionalistes, les modernistes, les super modernistes. Et bon, je ne vais pas raconter en détail, mais il y a des... raconter en détail ce qui, pour moi, pose problème, c'est notamment... Bon, il y a une
espèce... On ne peut pas raconter parce que sinon...
Oui, ça fout tout en l'air. Mais je dirais qu'au niveau du scénario, il y a quelques petits trucs qui sont durs à avaler. Par contre, l'ensemble du film tient bien la route.
Oui, parce que c'est les magouilles qui exposent les turpitudes des différents prétendants à la papauté. Voilà. Alors, il y en a un, c'est plutôt les jeunes... il a abusé un petit peu de jeunes prépubères. Il y en a un autre, il fait que des magouilles financières. Mmh. Et il y en a un autre sous le couvert d'humilité. en fait, il a une ambition dévorante. Bon, mais après tout, tous les papes, j'imagine, ont une ambition dévorante. Et puis, il y a... un autre qui va devenir pape. Mais ça, on ne peut pas en dire plus. Vous, donc, film du dimanche soir. On va passer au Joker, alors, parce que...
La note, presse 3,8 et... Non, je me trompe. La presse 3,5 et les spectateurs 3,8.
Bon. On va être obligé de zapper le Eastwood, et c'est bien dommage. Mais bon.
On va faire Joker. On va faire Joker et le petit Nicolas va nous faire le résumé du Joker.
Film de Todd Phillips, 2h20, avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Le Joker revient, il est amoureux.
Et il n'est pas content aussi après.
Il est ni amoureux ni pas content.
Quand Joker fait ça, Joker pas content, Joker toujours faire ça.
Ouais. Enfin, c'est elle qui fait plutôt là.
Oui. Bon alors Joker.
Je vais commencer parce que comme ça sera vite fait. Pour moi, c'est le.
C'est le Joker.
Le plus grand film de l'année, tout simplement. C'est un film qui a été complètement éreinté par la critique, puisque la presse donne 2,8 et les spectateurs qui donnent 2,3. Alors, c'est un peu normal que les spectateurs n'aient pas suivi, mais c'est moins normal que la critique soit aussi dure, parce que pour les amateurs de Joker, Batman et compagnie, c'est vrai que là, ils ne retrouvent pas leur petit dans la mesure où ça n'a rien à voir avec la licence Batman. C'est un film qui nous conte les affres du Joker qui est incarcéré chez les Barjots. Et il y a des films qui ouvrent les synapses dans nos pauvres cerveaux. Celui-là en fait partie pour moi, et d'autres qui ouvrent l'appétit, le besoin d'engloutir des sauts de pop-corn. Et là, il y a tout un travail fantastique au niveau là. Alors, Joaquin Phoenix est, comme dans le premier Joker, extrêmement fameux. Lady Gaga fait parfaitement son boulot. Il y a ce qui a aussi dû désarçonner les amateurs, c'est que c'est une comédie musicale, mais pas à la mode française, enfin à la mode Audiard. Là, ça tient le choc. Il y a tout un tas de grandes chansons, des comédies musicales qui sont reprises et qui collent parfaitement avec l'intrigue. Il y a donc un travail à tous les niveaux, scénaristique, cinématographique, qui est pour moi parfaitement réussi. Et je sais que Jean-Marie, je crois, ne sera pas d'accord avec moi. On réglera ça à la sortie.
D'accord. Alors, le film s'ouvre avec un dessin animé réalisé par Sylvain Chaumet.
Ah ouais.
Excellent. Donc, le film Brachomé, Les Triplettes de Belleville, etc. C'est lui aussi l'auteur de la bande dessinée.
Oui, oui.
René Lacan,
dans le style des dessins animés de la grande époque. Voilà.
En fait, c'est la réussite de ces films a fait que il a été Todd Phillips l'a appelé pour lui demander de réaliser le dessin animé d'ouverture qui est dans le cartoon. Mais alors, Jean-Marie, tu n'es pas du tout content. Tu n'es pas d'accord, pardon.
Non, enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, je trouve que c'est un Joker de trop, c'est-à-dire que tout ce qui était dans le premier, rien de plus que le premier, si ce n'est une comédie musicale à la Damien Chazelle, c'est-à-dire avec des gens qui savent pas danser et des gens qui savent pas chanter, et je trouve ça...
Lady Gaga ne sait pas chanter.
Bah, pas là, en tout cas, et je trouve ça... ni fait ni à faire. Je sais pas à quoi ça sert en fait. Je sais pas ce que ça me raconte de plus que le premier, qui était d'une noirceur et d'une sécheresse assez épatante.
Bah si, ça raconte là, quelque chose sur le Joker et ça rapport
on s'en fout. Le personnage du Joker, il m'intéresse s'il me raconte quelque chose du monde.
Méchant,
là, il me raconte rien. Il me raconte rien de plus que ce qu'il m'a déjà raconté. C'est ça que je veux dire. Et qu'en fait, c'est juste un Me Too Project. C'est-à-dire que ça a marché le premier, eh ben on va reproduire le truc. Mais comment reproduire le truc? Peut-être en les enchanter.
Au démarrage, Todd Phillips avait le projet de faire une trilogie avec le Joker.
Dès le départ,
c'était prévu. Sauf que la trilogie n'aura certainement pas lieu, elle s'arrêtera avec le 2. Mais c'était son point de départ, c'est-à-dire faire effectivement une suite.
Si les deux épisodes suivants étaient du niveau de celui-ci, c'est normal que ça se prolonge pas, quoi.
Mais ça se prononce pas pour des raisons qu'on peut pas dire à nos spectateurs, à nos auditeurs, s'ils n'ont pas été voir le film.
Bon, il y a quand même effectivement, c'est le prolongement du premier. Le premier.
Et rien de plus, en fait.
Le gamin a été ambiancé par sa mère, il y a tout le rapport avec sa mère et les comédies musicales qu'il a vues à la télé, c'est la suite.
C'est pas la suite. C'est on profite d'un film de procès, pour remontrer tout ce que tu as déjà vu.
C'est la suite.
Non. C'est pas la suite.
Bon, le problème, c'est que je ne sais pas si c'est la suite, mais on arrive à 19h. On va pas parler de Juré numéro 2, le film de Clint Eastwood, mais tu peux dire deux mots sur le Juré numéro 2.
Non, je peux pas dire deux secondes, non.
Bah, jury numéro 2 secondes.
Ouais, mais non, mais c'est un film. Enfin, voilà, c'est. Non, ça ne tiendrait pas en 2 secondes.
Bon, alors, écoute, on se retrouve la semaine prochaine, comme ça, on fera le jury numéro 2. Et peut-être, on déglacera un petit peu le Joker. Bobolov et Jean-Marie Nizan, merci d'avoir été avec nous pour décrypter cette année 2020.
Avec grand plaisir.
Le petit Nicolas et moi-même, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, alors évidemment, on a peut-être choisi trop de films.
Ah, ouais. Mais il vaut mieux trop que pas assez, comme
allez,
disait ma grand-mère.
On peut dire quand même aux auditeurs de Radio Libertaire.
Faudra tromper les flingues pour sortir des hamsters.
Bien capté, bulle noire sur Libertaire,
Radio Libertaire.